Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Gabriel Fortin a été renvoyé devant la cour d'assises pour 3 assassinats et une tentative d'assassinat. Son procès se déroulera à partir du 13 juin 2023. Tant qu'il n'a pas été jugé, il est présumé innocent.
Ce qui est particulier, effectivement, c'est qu'en général, une personne paranoïaque ne veut surtout pas être considérée comme folle et va vouloir expliquer par A plus B pourquoi il a tué cette personne qui lui faisait du tort et à quel point c'est justifié. Avec M. Fortin, on a l'impression qu'il a disqualifié le côté judiciaire, administratif. Il refuse de parler. Donc, moi, mon hypothèse, c'est effectivement ça. Il n'a pas été entendu, donc aujourd'hui, il ne veut plus parler à ceux qui ne l'ont pas écouté à l'époque.
On l'a vu dans l'épisode précédent. Gabriel Fortin ne donne pas toutes les clés de son passage à l'acte. Les investigations n'ont pas permis de déterminer pourquoi il a tué Patricia Pasquion, cette conseillère Pôle emploi, sans lien direct avec lui. Tout au long de l'instruction, Gabriel Fortin a gardé le silence, comme si son périple meurtrier parlait de lui-même. Et en même temps, depuis sa cellule, il regrette, sur les feuilles de son carnet à petits carreaux, de ne pas faire suffisamment la une des journaux.
L'impact médiatique a été amoindri et couvert par d'autres affaires médiatiques.
En lisant ça, je me suis demandé si Gabriel Fortin parlait d'autres affaires criminelles qui auraient eu lieu en même temps. Aucun dossier en particulier ne me revient en mémoire. Début 2021, j'ai bien couvert des procès, mais j'ai pas le souvenir d'affaires médiatiques qui auraient pu étouffer ce triple assassinat. Je suis Marion Dubreuil, et vous écoutez le 5e épisode de Tueurs de DRH.
Les enquêteurs privilégient ce soir la piste de la vengeance.
La préméditation de celui qu'on surnomme le tueur de DRH.
La justice m'a laissé seul avec une meute de loups.
Leur point commun, une activité dans le monde du travail. Ressources humaines ou aide aux chômeurs.
Ils me prennent pour des cons.
Pour le coup, il a bien pensé les choses.
Perte de chance.
C'était clairement un tir pour tuer.
Carrière détruite.
Une expertise balistique est en cours pour confirmer ou non le lien avec les faits commis en Alsace par celui qu'on surnomme aujourd'hui le tueur de DRH.
Épisode 5. La famille.
Lors d'une perquisition à son domicile ce week-end, les enquêteurs ont retrouvé deux lettres d'adieu qui pourraient laisser penser une volonté de l'auteur de mettre fin à ses jours.
Gabriel Fortin a été mis en examen. Avant de prendre la route le 25 janvier 2021, Gabriel Fortin a laissé deux courriers sur la table de la cuisine. L'un à l'intention de sa mère et l'autre de son frère, avec la même formule et la même signature. Merci pour ces moments.
Chère maman, merci pour ces moments. Prends soin du chien. Gabriel. Olivier. Merci pour ces moments. Prends soin de maman. Gabriel.
Deux lettres presque interchangeables. Gabriel Fortin leur a également fait parvenir par la poste, le jour où il a pris la route, les relevés de ses comptes en banque et de son assurance vie. Plus de 140 000 euros d'épargne. Comme s'il avait prévu de ne jamais revenir de son périple. Comme un adieu. Ce ne sont bien sûr que des hypothèses, parce que l'ingénieur s'est muré dans le silence, face aux enquêteurs, face à la juge d'instruction, face aux experts aussi. Alors pour tenter de combler ces silences, j'ai contacté un expert que j'ai déjà rencontré pour m'aider.
Alors je suis désolé, j'avais fait un vocal, mais visiblement l'enregistrement était pas passé. Donc on est chez...
Nicolas Estano est psychologue clinicien. Il est membre de l'Association française de criminologie et expert judiciaire. Je lui ai envoyé mes documents de travail j'ai partagé avec lui mes interrogations.
Là, il me reste la partie recensement de la personnalité fait par les enquêteurs, donc les pages, les dernières pages, que je lirai ce soir. Là, j'ai vu un peu les éléments.
Gabriel Fortin est né le 14 février 1975 à Nancy, d'une mère française et d'un père gabonais. Ses parents, Francine et Jean-Marie, se sont rencontrés sur les bancs de la fac Saint-Jérôme à Marseille, à la fin des années 60. Elle est devenue laborantine à l'hôpital, lui, doctorant en biochimie. Ils ont eu deux fils ensemble, Olivier et Gabriel, qui ont 2 ans d'écart. Le père est finalement parti pendant la grossesse de Gabriel et n'a jamais reconnu le petit garçon. Gabriel Fortin fait ses premiers pas à Marseille, où il a vécu jusqu'à ses 2 ans, confié provisoirement à la garde de ses oncles et tantes. Sa mère part rejoindre son père avec son frère aîné Olivier au Gabon. Jean-Marie y a d'autres enfants. Plus tard, Gabriel Fortin grandit à Nancy, avec une mère obsédée par la réussite scolaire de ses fils. Au point de gifler Gabriel quand il confond les lettres, quand il apprend la lecture, une tante de Gabriel Fortin raconte aux enquêteurs qu'elle ne répétait jamais 2 fois ses ordres, sinon c'était la punition. Francine Fortin estime que la réussite professionnelle passe avant les loisirs et l'amitié.
La manière dont l'apprentissage a été parfois investi du côté maternel, avec parfois des sanctions physiques, montre bien que c'est une sphère, en tout cas, dans laquelle elle mettait beaucoup. Et lui a certainement voulu coller au désir de sa mère d'être un bon élève, un bon professionnel.
Gabriel Fortin semble mener une scolarité comme les autres jusqu'au collège. Il a des copains, joue au rugby en dehors de l'école, mais à 14 ans, il se blesse. Finit le rugby. Son univers se rétrécit un peu et l'essentiel de ses efforts est concentré sur ses cours.
Son enfance, la vie scolaire, le collège, il n'avait que quelques amis. Ce n'était pas forcément la personne la plus populaire et on s'aperçoit surtout que... J'utilisais tout à l'heure le côté couleur muraille, hein, la personne qui marque pas tant que ça les esprits. Tentative un peu plus tard, après son premier licenciement, de renouer contact avec des amis de collège ou de lycée qui restent des messages sur copains d'avant sans aller plus loin. Donc quelqu'un qui est plutôt isolé, qui cherche à manifester, à obtenir un regard d'autrui.
Et notamment le regard de sa mère. Comme lorsqu'il décroche son diplôme d'ingénieur, en 1999, avec son copain Jacques.
On avait eu la remise des diplômes, donc on était allé sur la scène, et puis on avait remis des diplômes en main propre, quoi. Donc on était contents. Ça s'est bien passé, et puis c'est à cette occasion-là que j'avais vu sa mère, après la remise des diplômes, et puis d'autres parents, d'autres élèves. C'était bien.
Un moment de fierté.
Oui, les parents. En général, là, c'est à ce moment-là que les parents remercient ou congratulent les enfants. Donc, ça est toujours fier quand les parents nous félicitent, quoi.
Vous vous rappelez, du coup, à ce moment-là, de la relation entre Gabriel et sa mère? Est-ce que vous avez vu, justement, ces félicitations?
Alors, j'ai peut-être pas vu ces félicitations. Comme j'avais discuté un peu avec elle, elle était fière de son garçon. Et elle était heureuse aussi à ce moment-là.
Sa mère est tout pour Fortin. À tel point qu'en 2018, à l'âge de 43 ans, après 8 ans de chômage, il demande l'attribution de son logement social à Nancy. C'est l'appartement de son enfance. Il est situé au 4e étage d'un ensemble de 4 immeubles, une ancienne caserne devenue des logements sociaux dans un quartier résidentiel. Gabriel Fortin n'a même pas pris la peine de changer le nom sur la boîte aux lettres. L'étiquette est abîmée, elle se décolle un peu, elle mentionne toujours Francine Fortin. Sa mère, qui est désormais installée à Strasbourg, lui paye de temps en temps le loyer et ses courses quand elle vient le voir à Nancy. ça fait plusieurs années que Gabriel Fortin est abonné aux minima sociaux.
Disons que souvent, on s'offre un pot entre nous, ben, il ne le faisait pas, on voyait qu'il était gêné. Je savais par ailleurs qu'il récupérait les consignes des bouteilles du club qu'il ramenait, je comprends. Mais ça se sentait, c'était pas quelqu'un qui manifestement était à l'aise et roulait sur l'or. Par contre, il avait quand même les moyens de se payer sa cotisation, ses cartouches et ses armes.
L'homme qui parle, c'est Marc, un tireur amateur qui a côtoyé Gabriel Fortin au stand de tir de Nancy pendant quelques années.
Il avait des problèmes matériels, je pense. Il avait peut-être aussi des problèmes relationnels avec certains. Il y a des moments, j'avoue, qui m'énervaient parce qu'il prétendait m'apprendre des choses dans un domaine que je connaissais infiniment mieux que lui, l'aviation. Enfin, ça n'allait pas jusqu'à une animosité. Hein. J'ai fait comprendre à certains moments que, de toute façon, il connaissait beaucoup moins que moi et que, c'était pas la peine de me prendre la tête avec ça. C'est tout. Mais ça s'est passé courtoisement. Il était assez isolé. Dans le club, il n'était pas ostracisé. Donc, l'isolation venait aussi de son fait.
C'est aussi ce que disait son ancien collègue Gaël, et ce que laisse entendre son copain d'école, Jacques.
Vous ne l'avez pas invité à votre mariage ?
Non, c'était pas quelqu'un d'assez proche pour que je l'invite. D'ailleurs, notre mariage, on a fait un mariage en petit comité, en fait. Donc, il n'y avait pas de raison particulière pour que je l'invite.
Il n'intègre pas votre petit groupe d'amis, mais est-ce que vous avez l'impression, vous, que vous faites partie de ce cercle proche ?
Bah, a posteriori, peut-être oui. Enfin, moi, j'ai une grande famille, donc j'ai pas mal de cousins, cousines. Lui, de ce côté-là, je sais pas du tout s'il en avait peut-être pas beaucoup, quoi. Donc, peut-être que oui, pour lui, j'étais quelqu'un qui était proche. Après, j'ai pas la vision réelle, quoi. J'ai ma vision à moi. Donc, c'est possible que j'étais parmi les personnes qui lui étaient le plus proche, quoi. A posteriori, peut-être que j'aurais pu le voir encore un peu quand j'étais en couple. Mais je manquais d'envie sans doute à ce moment-là. Après, c'est toujours un peu difficile d'admettre que la personne était en difficulté, que Gabriel était en difficulté et que j'ai pas pu vraiment l'aider. Bon, après, je pensais quand même qu'il avait un entourage un peu plus proche qui pourrait l'aider aussi, notamment avec sa famille, quoi.
Gabriel Fortin a des contacts épisodiques avec sa famille maternelle. Il voit ses oncles et tantes pour la dernière fois en 2019 à Marseille, à l'occasion d'un enterrement. Les échanges qu'il a avec son frère aîné sont assez impersonnels. Bonne fête, frangin. Joyeux Noël à toi aussi. Le dernier message qu'il lui envoie, le 23 janvier 2021, deux jours avant de prendre la route, concerne leur mère.
Il faudrait passer chez maman, elle a besoin d'aide. Une fuite.
D'ailleurs, ce grand frère qui occupe un poste de chercheur n'a pas grand-chose en commun avec Gabriel, qu'il décrit aux enquêteurs comme « bizarre, asocial », parce qu'il n'a pas de femme, pas de vie professionnelle. Les deux frères sont capables de rester même plusieurs mois sans se voir. La dernière fois, c'était au restaurant, après le déconfinement, en mai 2020. Quand il est arrêté le 28 janvier 2021, Gabriel Fortin vit seul. Il n'a pas de compagne, pas de compagnon, pas d'amis. Sa dernière relation connue remonte au lycée, il y a plus de 30 ans. Une amourette qui a duré que quelques mois. Quand Gabriel Fortin rejoint Faune en 2008, il tente de reprendre contact avec elle sur le réseau social Copain d'Avant. Il se revoit pour un déjeuner, mais le courant ne passe plus. Pourtant, Fortin réessaie en 2010, après son dernier licenciement. C'est ce qui frappe l'expert Nicolas Estano. Il tente une nouvelle fois de la revoir. Elle s'est mariée entre-temps.
Cette personne est dans la recherche d'approbation d'autrui. A voulu obtenir des bonnes notes, un travail stable, certainement pour correspondre à ce qu'on lui a inculqué comme étant une position normale, enviable. Et Monsieur Fortin, l'idée c'est aussi d'avoir un travail et une femme et des enfants, si on veut être normal, entre guillemets, dans cette société. Et au plan sentimental, il ne fait pas référence, il n'est pas désigné comme un charmeur, c'est quelqu'un qui est plutôt introverti, et cette jeune femme est un peu sa bouée de sauvetage pour rattraper ce qui n'allait pas au plan professionnel. Et elle a été surinvestie, comme d'autres personnes, comme cet ami que vous avez évoqué à l'école d'ingénieur. Les quelques relations qu'il a sont tout de suite mises en avant et comme des choses auxquelles il va s'agripper pour se maintenir à flot. Donc cette jeune femme a été effectivement peut-être un espoir de normalité pour lui, avec finalement la déception. Et la déception, le sentiment d'humiliation, on retrouve dans ses écrits quelques propos témoignant bien de cette amertume. Il la désigne comme, à la fin, une femme tentant de l'escroquer, hein, ayant engendré une atteinte au bien-être affectif.
Preuve message égale, elle voulait un plan cul.
Gabriel Fortin ne supporte pas d'être rejeté. Cette petite amie du lycée devient alors une obsession. Il la cible sur les réseaux sociaux avec des railleries et des commentaires désobligeants. Comme avec ses ex-DRH, Gabriel Fortin la stalke. Il connaît tout d'elle, jusqu'à la disposition de son appartement. Dans son ordinateur, tout est consigné. Les horaires des repas et l'école des enfants.
Les personnes rigides, psychorigides, avec une, parfois une personnalité paranoïaque, vont être assez minutieux dans le contrôle de soi, le contrôle des émotions, le contrôle des paroles. Et parfois, ça passe aussi par le contrôle de ses actes. Donc, ça veut dire, à ce point-là, effectivement, on est sur une dimension pathologique, mais consigner le repas, les promenades, le nombre de pas effectués, les moindres déplacements, frais engagés, c'est très particulier, mais ça permet malgré tout de voir un peu plus clair sur le fonctionnement de cette personne. C'est quelqu'un surtout qui a besoin de maîtriser. En notant tout, il maîtrise absolument tout son emploi du temps, son agenda. Ça vient indiquer surtout le côté, on pourrait dire, extrêmement classique de la rigidité psychique. Donc on a des gens qui vont être dans une sorte d'emmurement en eux-mêmes, qui vont être incapables de se remettre en question, pour la simple et bonne raison que s'ils se remettent en question, il peut y avoir d'une certaine manière tout qui s'effondre, comme un château de cartes fragile. Et il ne faut absolument pas qu'il y ait un courant d'air qui vienne faire tomber une carte. Donc la rigidité psychique, c'est une sorte de carapace qui va protéger un sentiment existentiel fragile.
Le confinement semble avoir accentué les névroses de Gabriel Fortin. En 8 mois, il envoie une 60aine de messages à une femme croisée seulement une semaine, près de 15 ans avant, à l'occasion d'un stage en parapente.
C'est ce qu'on appelle des fixations pathologiques qui se retrouvent parfois chez des gens qui vont pratiquer ce qu'on appelle le stalking, c'est-à-dire le harcèlement, qui vont suivre de manière pathologique les faits et gestes de personnes qui sont surinvesties et qui vont entraîner parfois des attitudes franchement inquiétantes, de recherche, de contact, de suivre la personne jusqu'à son domicile, de l'épier, de rechercher une proximité, une intimité. Le stalker, globalement, c'est quelqu'un qui cherche une intimité avec quelqu'un avec lequel il n'y a pas forcément de relation de proximité. Il voudrait bien, mais ce n'est jamais allé aussi loin. Et avec cette petite amie qu'il a pu avoir à 16 ans, finalement, il a opéré de la même manière qu'il a pu opérer avec les personnes qui ont été victimes de Monsieur Fortin dans le courant de l'année 2021. C'est-à-dire observer les habitudes de vie, l'habitation, les horaires d'arrivée, de départ, qui vit avec. Et on retrouve cette fixation pathologique. Alors, est-ce que c'est une psychose paranoïaque ? ou un trouble de personnalité paranoïaque, ça, les experts auraient pu y répondre et ça aurait peut-être amené la question de l'altération, l'abolition ou donc l'irresponsabilité pénale ou au contraire, finalement une simple, entre guillemets, personnalité paranoïaque et une responsabilité de la personne qui peut être jugée. La paranoïa va être un mode de relation à l'autre qui est profondément marqué par la sensitivité, la méfiance. Les propos d'autrui vont être toujours interprétés comme étant quelque chose, une attaque, une remise en question.
Francine Fortin avait perçu en partie la détresse de son fils. La dernière fois qu'il s'était vu, il était parti en sanglotant. Le 23 janvier, elle lui avait envoyé un message inquiet. Ça n'a pas suffi à rattraper Gabriel Fortin. Depuis la prison, au début de son incarcération, il écrit une lettre destinée à sa mère. Une lettre dans laquelle il rompt tout contact. Un brouillon qu'il n'a jamais envoyé.
Francine, j'ai fait ma petite enquête. Je sais que mes conversations téléphoniques étaient surveillées et écoutées. Donc quand je fréquentais des filles, des gens s'arrangeaient pour faire foirer mon couple.
Il veut exposer le préjudice qu'on ne veut pas lui reconnaître. Donc il choisit, à travers ces moyens-là, de mettre en avant et d'illustrer, et de faire connaître au monde ce vécu d'injustice qu'il ressent profondément et qui lui semble, pour le coup, très, très réel. Ce qu'on peut retrouver souvent, par contre, dans les cas de passage à l'acte chez des personnalités paranoïaques, c'est une conviction du bien fondé de l'action. C'est pour ça que je dis que c'est assez étonnant de ne pas l'entendre s'exprimer, puisque la personne a envie de vous expliquer pourquoi il est passé à l'acte, et de justifier ça. Là, on a un silence, mais effectivement, vous le dites, il parle à travers ses écrits, il permet de reconstruire son parcours de vie.
Au-delà d'un parcours de vie, les écrits de Fortin permettent aussi de retracer ses obsessions, celles qui ont contaminé tous les aspects de sa vie. De l'univers professionnel à la sphère la plus intime.
Ils m'ont violé mon intimité. Ils sont introduits dans ma vie et m'ont traîné dans la boue.
Je ne sais pas si on peut considérer que les crises économiques vont forcément engendrer des passages à l'acte hétéro-agressifs. Il faut beaucoup de choses pour avoir un passage à l'acte hétéro-agressif. Par contre, la crise économique, est-ce qu'elle peut engendrer des passages à l'acte auto-agressifs? Oui. Ces gens qui ne sont rien, pour citer les propos un peu raccourcis du président Macron, mais voilà, la question d'être quelque chose ou de n'être rien est profondément ancrée avec le travail. Puisque, globalement, les gens oisifs sont mal perçus. Donc, il faut travailler pour être quelqu'un. Et la plupart du temps, ce qu'on trouve comme mécanisme, c'est pas vraiment des mécanismes projectifs et paranoïaques où on va éliminer ceux qui vous renvoient une mauvaise image. Ce sont plutôt des mécanismes anxio-dépressifs qui aboutissent le plus souvent à des suicides. Moi, je serais plus inquiet sur des vagues de suicides à la faveur d'une crise économique qu'une vague de règlement de compte à OKCoral au sein du monde de l'entreprise.
Tueur de DRH est une série originale du podcast L'Affaire en 6 épisodes, écrite par Marion Dubreuil et réalisée par Adrien Leblon pour Paradiso Média.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.